Ce texte a été rédigé par une étudiante en droit. Il ne s'agit pas d'un conseil ou d'un avis juridique. La loi sur la protection de la jeunesse, qu'on va appeler la LPJ, s'applique dans des situations exceptionnelles. Elle ne concerne que les enfants qui vivent des problèmes majeurs et qui font face à une situation assez critique pour que l'État puisse intervenir dans leur vie privée et celle de leur famille. La LPJ a deux objectifs. D'abord, elle vise à mettre fin à une situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant et à éviter qu'elle ne se reproduise. Ensuite, elle a pour but de privilégier les moyens qui permettent à l'enfant et à ses parents de participer activement à la prise de décisions et au choix des mesures qui les concernent. Le processus d'intervention démarre par un signalement d'une personne à la Direction de la protection de la jeunesse, communément appelée la DPJ. Cette personne, pour faire un signalement, doit avoir un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d'un enfant est compromis. C'est à l'article 38 et 38.1 de la LPJ qu'on retrouve les 6 situations dans lesquelles la sécurité ou le développement d'un enfant est compromis et où la DPJ pourra ainsi intervenir. Ce sont l'abandon, la négligence, soit sur le plan physique, sur le plan de la santé ou sur le plan éducatif, les mauvais traitements psychologiques, les abus sexuels incluant l'exploitation sexuelle, les abus physiques et enfin, lorsque l'enfant présente des troubles de comportement sérieux. On inclut également le risque sérieux de négligence, d'abus physiques et d'abus sexuels. Il a été conclu qu'il pouvait y avoir un risque sérieux de négligence lorsque les parents ne répondent pas aux besoins fondamentaux à l'enfant dû à un problème de santé mentale, une déficience intellectuelle ou physique chez le parent. En effet, lorsque le problème de santé mentale fait en sorte que le parent, malgré toute sa bonne volonté, ne peut assumer ses obligations de soins, d'entretien et d'éducation, le juge doit choisir entre les droits de ce parent d'entretenir des liens avec son enfant à la mesure de ses capacités et les droits de cet enfant de vivre une vie stable au sein d'une famille qui est en mesure de répondre à ses besoins. Par contre, pour qu'il y ait une déclaration de compromission, il faut que les problèmes d'ordre psychiatrique ou psychologique créent un danger moral ou physique pour l'enfant. Le seul fait que le parent ait un problème de santé mentale n'est pas suffisant pour retirer un enfant de son milieu familial, et ce, quel qu'il soit. Dans chaque cas, le juge doit décider à partir des faits et des circonstances particulières si le parent assume ses responsabilités envers son enfant. Ensuite, lorsqu'il y a un signalement, les situations doivent être analysées par la DPJ en fonction de certains facteurs prévus dans la LPJ. Il s'agit de la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés, l'âge et les caractéristiques personnelles de l'enfant, la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation problématique et les ressources du milieu pour venir en aide à l'enfant et à ses parents. Il s'agit donc d'une analyse des facteurs de risque et des facteurs de protection qui permet de déterminer si la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis, et ce, à toutes les étapes du processus d'intervention en protection de la jeunesse. Lorsqu'on fait l'évaluation de la capacité et la volonté des parents, il faut analyser la compétence parentale, c'est-à-dire la façon dont les parents accomplissent leur rôle et assument leurs responsabilités. Il faut également analyser la capacité parentale, c'est-à-dire les ressources et les qualités personnelles des parents vis-à-vis leurs responsabilités. Toutefois, il faut retenir que les parents ont tous les mêmes responsabilités envers leurs enfants, quelle que soit leur capacité. Lorsque vous êtes en présence d'une intervention de la DPJ, il faut savoir que vous n'êtes pas dépourvu de droits. Premièrement, la LPJ prévoit l'obligation des intervenants sociaux et judiciaires d'informer les personnes concernées par une intervention et de préciser les devoirs qui en découlent. Cette obligation existe à toutes les étapes de l'intervention. Les intervenants sont tenus d'adapter leur façon de transmettre l'information aux personnes en cause et de vérifier leur degré de compréhension. Deuxièmement, il y a le droit d'être entendu. Autrement dit, l'enfant et ses parents, de même que toute personne qui veut intervenir dans l'intérêt de l'enfant, doivent avoir la possibilité de présenter leur version des faits et d'expliquer la situation. Troisièmement, l'enfant et les parents ont le droit de consulter un avocat et d'être assistés et représentés par lui, et ce, non seulement dans le cadre d'une instance judiciaire, mais également en tout temps dans le cadre de l'intervention. Il est important de mentionner que des règles particulières s'appliquent concernant la représentation de personnes majeures inaptes et concernant les personnes atteintes de problèmes en santé mentale. Quatrièmement, il y a le droit de refuser certaines mesures et le droit de contester certaines décisions. Cinquièmement, il y a le droit des services adéquats, soit les services de santé et les services sociaux pour l'enfant et pour ses parents, ainsi que les services éducatifs pour l'enfant seulement, et ce, quelle que soit l'étape de l'intervention. Sixièmement, il y a le droit d'être accompagné d'une personne avec qui l'enfant ou les parents ont établi un lien de confiance. Et dernièrement, il existe des droits applicables à l'occasion d'un hébergement, comme l'hébergement dans un milieu approprié, la confidentialité des communications, l'encadrement des mesures disciplinaires et les transferts d'un lieu d'hébergement à un autre. Pour terminer, lorsque le juge décide qu'il a compromission pour la sécurité ou le développement de l'enfant, il pourra ordonner une ou plusieurs mesures qui sont prévues dans la LPJ. Entre autres, il pourra décider de maintenir l'enfant dans sa famille avec des mesures pour mettre fin à la situation de compromission. Il peut prévoir que l'enfant soit confié à un des deux parents, qu'il soit confié à d'autres personnes ou qu'il soit confié à une famille d'accueil. Il est aussi prévu que le tribunal peut faire toute recommandation qu'il estime dans l'intérêt de l'enfant. La LPJ prévoit une gradation des mesures avant que ne soit envisagé le retrait de l'enfant. Les mesures doivent d'abord favoriser la participation des parents pour mettre fin à la situation de compromission et la préservation du lien parent-enfant doit toujours être priorisée. Pour le cas spécifique du parent ayant un problème de santé mentale, la Cour a déjà conclu que le retrait de l'enfant du milieu familial jusqu'à sa majorité doit être le dernier recours, le seul disponible quand les mesures alternatives sont inadéquates. Pour ce qui est de l'adoption, l'enfant placé en famille d'accueil n'est pas encore légalement adoptable. C'est la DPJ qui devra le faire déclarer judiciairement admissible à l'adoption lorsqu'il considère que l'adoption est la meilleure mesure pour les intérêts de l'enfant. Il aura alors comme obligation de prendre en charge l'enfant en vue de l'adoption et d'assurer son placement. Ensuite, il examinera toutes les demandes d'adoption. S'il accepte une candidature de parents adoptifs, l'enfant sera hébergé chez eux et après 3 à 6 mois, la DPJ évaluera la situation. S'il décide que c'est dans l'intérêt de l'enfant, il va entreprendre les procédures en adoption. À cette étape, le tribunal s'assure que l'adoption est dans l'intérêt de l'enfant et que celui-ci s'est adapté à sa nouvelle situation. Lorsque l'enfant a été abandonné ou si un juge a retiré l'autorité parentale aux parents biologiques, le consentement de ceux-ci n'est pas nécessaire pour l'adoption. Pour ce qui est du consentement de l'enfant, s'il est âgé de 10 ans et plus, il doit consentir à son adoption. Cependant, le tribunal peut prononcer l'adoption malgré le refus d'un enfant de moins de 14 ans s'il est dans l'intérêt de cet enfant. Le refus d'un enfant de 14 ans et plus rend l'adoption impossible. Il est important de mentionner que depuis le décès d'une fillette de 7 ans à Granby le 30 avril 2019, la population québécoise a beaucoup d'inquiétudes par rapport au système de protection de la jeunesse. Le gouvernement du Québec s'est donc engagé à entreprendre une réflexion sur les services de protection de la jeunesse, sur la loi qui l'encadre, sur le rôle des tribunaux, des services sociaux et des autres acteurs concernés. Ce mandat a été confié à la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse. Il faut rester à l'affût du rapport de cette commission qui pourrait apporter des changements à la loi. C'est tout pour cette capsule. Nous espérons qu'elle vous a été utile. Vous pouvez communiquer avec une ou un avocat pour plus de précisions. Pour avoir plus d'informations sur la loi sur la protection de la jeunesse, vous pouvez consulter le site Internet de l'organisme LADROIT où vous trouverez la version écrite de cette capsule et plusieurs liens pertinents. Merci.